Le drone, c'est un instrument qui permet de mettre en œuvre quelque chose qui apparaît dans l'histoire du droit de la guerre comme une invention inouïe. C'est le principe d'immunité du combattant national. Or, ça, c'est en rupture complète, parce que, un petit rappel, mais dans le droit de la guerre, le principe fondateur en la matière, c'est l'immunité des
Des
non-combattants,
civils.
des civils, et quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur langue et leur couleur de peau, les civils doivent être préservés
Préservés.
parce qu'ils ne sont pas en situation de se défendre ou de participer aux hostilités. Là, on invente un nouveau principe, sui generis, qui est fait pour l'occasion, hein, qui est l'immunité du combattant national. On affirme que les vies des nôtres, entre
Oui,
guillemets,
c'est ça, c'est qu'il faut réintroduire nous et eux. Le système pseudo-philosophique mis en place pour justifier les frappes de drones ne repose que sur une distinction entre deux catégories d'humanité. Ça n'est plus la distinction les combattants et les civils, où jusqu'à présent on mettait en péril la vie des combattants et c'est le jeu de la guerre et c'est la morale de la guerre. Maintenant, la distinction n'est plus combattants versus civils, mais nous, la guerre juste, et eux, chez qui le nombre de victimes est négligeable parce que eux, ce eux-là, tous, civils, combattants, on ne sait pas, sont considérés comme, même si ça n'est jamais formulé avec autant de netteté, au fond, une espèce inférieure. Enfin, il y a quelque chose, on retrouve un peu l'indigénat, l'idée que les autochtones ont la valeur de leur existence compte moins que celle du combattant. C'est fou, on est en train de réintroduire de la hiérarchie dans l'espèce humaine.
Nos vies sont absolument sacrées et les leurs sont absolument sacrifiables. Et on peut effectivement interpréter ça comme une rupture radicale dans l'égalité ontologique de la considération des vies humaines. Vous prenez la description de ce qui se passe, en revanche, dans une province telle que le Waziristan au Pakistan. Et la situation a été documentée par un rapport américain qui s'appelle, par des ONG américaines et des juristes qui sont là enquêtés sur place, un rapport qui s'appelle Vivre sous les drones. La population entend un bourdonnement constant, des frappes régulières, dans certains villages c'est à répétition. Ils voient très bien que les personnes touchées, elles le sont de manière en pratique indiscriminée. Et l'image qu'on a, c'est une image de terreur et
Oui.
de terreur générale. Enfin, je cite un psychiatre pakistanais dans le livre qui rapporte, enfin, c'est des états
Ça
de.
rend fou.
Ça rend
Ça
fou.
rend littéralement fou.
Ça rend
Oui,
fou.
c'est.
Enfin, il faut s'imaginer qu'est-ce que ça peut être de vivre avec des miradors armés au-dessus de ses têtes en permanence. Et ça, enfin, par ailleurs, les stratèges américains, ils l'ont théorisé. Je cite aussi des
Ah
textes.
oui, je veux dire théoriser le fait de rendre fou, ça fait partie du projet?
Charles Dunlap, qui est un
Oui.
des stratèges de l'Air Force et qui est aujourd'hui un des partisans de la guerre contre-insurrectionnelle par les airs, dit bah, cette arme, elle a un avantage tactique décisif. Avantage tactique décisif parce que ça permet de terroriser l'ennemi.
Il appelle ça la dislocation psychologique, c'est ça, hein. Ça produit de la dis c'est l'opportunité de disloquer la psychologie des insurgés.
Oui.
Voilà comment il dit ça. Disloquer la psychologie des insurgés.
Des insurgés et de tous ceux qui sont à côté de, enfin, je veux dire, de toute une
Oui.
population, hein, de manière indiscriminée. Pourquoi? C'est très simple. L'idée, c'est des bombes qui tombent du ciel, vous ne pouvez pas les combattre. Ça prive l'ennemi de combat, ça prive l'ennemi d'ennemi, ça retourne, mais de manière radicale, hein, radicalisée, contre des mouvements de partisans de guérilla, un principe qui était le principe de l'esquive ou de l'escamotage. Hein. Et c'est théorisé par ces stratèges-là très explicitement comme une arme de terrorisation. C'est l'arme du terrorisme d'État. Avec
Oui.
des débats internes à l'appareil militaire américain, vous avez aujourd'hui un conflit entre deux branches en fait de la stratégie contre-insurrectionnelle. D'un côté, ce premier courant, la contre-insurrection par les airs ou aéro-centrée,
Ouais.
et de l'autre, des théoriciens plus traditionnels de la guerre contre-insurrectionnelle qui ont lu d'ailleurs des théoriciens français comme Galoula et qui ont été inspirés, c'est paradoxal, mais indirectement par une conception marxiste-révolutionnaire de ce que c'est qu'une insurrection et
Oui.
des coordonnées principales qui permettent de remporter le combat. Et pour ces gens-là, l'idée centrale, c'est une guerre contre-insurrectionnelle, ça se gagne, formule consacrée, en ralliant à soi
les cœurs et les esprits.
Les cœurs et les esprits d'une population.
C'est-à-dire que ça se joue sur le terrain politique. Il faut produire du discours et de l'argumentation pour gagner les cœurs et les esprits. Et
il faut être sur le terrain. Ouais. Et ce qui, donc, l'objection qu'ils font à l'autre courant, c'est de dire une guerre menée du ciel par une arme qui apparaît comme lâche, qui apparaît comme odieuse, dans les régions où elle frappe, mais aussi parce qu'on est dans un âge médiatique, auprès d'une opinion publique transnationale, y compris à l'intérieur même des pays occidentaux. Cette stratégie-là, qui remplace en réalité une vision politique des choses par un gadget technologique, elle va entraîner des retours de bâton. En réalité, il y a une stratégie d'éradication indéfinie qui reproduit par ses effets négatifs la menace qu'elle est censée éradiquer.
Oui, c'est ça, vous montrez qu'en fait, ça refabrique l'hydre dont on prétend décapiter toujours les extrémités. En fait, on les régénère à chaque fois par la violence qu'on exerce sur elles. Ça fabrique de la haine.
Et ce qui est très intéressant, c'est la réponse que font donc les partisans de la contre-insurrection par les airs. En bref, c'est whatever.
Oh, on s'en fout. Oui, bien sûr. Allons-y. Tant pis, on va décapiter les têtes à mesure qu'elles repousseront, puisque l'arme ne nous fait courir aucun risque personnel. On s'en fout de générer en gros de l'insurgé au kilomètre, si je puis dire, puisqu'on va tous, on va les décapiter.
Et ceci avec une mutation qui est permise par cette arme-là, parce que. Et ça, c'est Eyal Weizmann, hein, qui est un architecte israélien, qui le montre. Il y a une tendance à passer d'une stratégie d'occupation à une stratégie de contrôle par les airs. Donc, et c'est ça qui se passe. Et à partir du moment où on contrôle un territoire par les airs, alors on peut avoir cette politique de terreur et d'éradication indéfinie. Et on nous promet une guerre sans défaite. C'est peut-être vrai, mais ce sera aussi une guerre sans victoire.
Elle est ingagnable, cette guerre-là.
Avec, un dernier point là-dessus. Avec quelque chose qui devrait inquiéter les civils, des opinions publiques, des gouvernements qui mènent de telles politiques, c'est un phénomène mécanique. À partir du moment où les vies militaires sont tellement protégées qu'elles deviennent totalement inaccessibles, les représailles, parce qu'il y en aura, elles tendront à se déplacer mécaniquement vers des vies plus accessibles et plus vulnérables, c'est-à-dire des vies civiles.
Absolument. Et justement, quand on vous lit, on tombe sous cette évidence que la seule réponse aux drones, pour les populations qui en sont victimes, c'est évidemment le geste terroriste sur le territoire d'où est parti le drone. La seule réponse possible, puisque les civils sont touchés par le drone, la seule manière de répondre violence contre violence, à égalité de férocité, c'est d'aller foutre des bombes à Boston ou à New York. Et j'ai jamais aussi bien perçu la légitimité, c'est terrible à dire, hein, la légitimité du geste terroriste, les grands méchants talibans qu'on nous présente comme le monstre, l'incarnation du mal et de l'aberration absolue, je découvre qu'au fond, si on l'inscrit dans le rapport à la frappe de drone, c'est la seule réponse adéquate.
Aujourd'hui, au Pakistan, vous avez des mouvements qui passent par des mobilisations citoyennes, des manifestations qui sont de la politique. Hein. Parce que moi, je ne souscrirais pas du tout à l'idée que la représailles terroriste serait la seule réponse possible et la seule réponse adéquate aux frappes de drones. Et juste pointer, parce que c'est très important, hein, sinon on tombe dans un binarisme qui est intenable, hein, de rappeler que au Pakistan aujourd'hui, la contestation des frappes de drones américains passe de façon massive par des mobilisations citoyennes, des manifestations, des programmes politiques et des luttes électorales. Et aussi, un deuxième point important, c'est il y a une organisation anti-drone américaine, féministe, qui s'appelle Code Pink, qui est dirigée par Medea Benjamin. C'est elle qui a interrompu le discours d'Obama, c'est elle qui a interrompu le discours de Brennan. Et ces militantes sont allées au Pakistan rencontrer les familles de victimes, leurs avocats, parce qu'il y a des procédures judiciaires en cours, procédures judiciaires qui ont visé le responsable local de la CIA, qui a dû prendre le premier avion pour éviter d'être éventuellement traduit devant les tribunaux. C'est-à-dire, il y a une lutte politique, et une lutte politique qui peut se faire sur des bases aussi de solidarité internationale. Et heureusement pour nous, l'enfer du face-à-face du drone et de l'attentat terroriste, ce n'est pas le seul avenir possible. Mmh. Et ça veut dire qu'on a aussi, ici, au moment même où en France, vous l'avez rappelé, le ministre Le Drian annonce que la France va acquérir des drones Reaper, c'est-à-dire des drones chasseurs-tueurs. On nous dit, américains, non armée pour l'instant, mais on comprend entre les lignes que c'est pour accélérer la procédure d'exportation. Au moment où le tournant des drones chasseurs-tueurs est en train d'être pris en France, on a une responsabilité de mettre en circulation des discours critiques et de s'opposer à cette politique.